Europe 1. Europe 1.
16h-18h. L'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1. Bienvenue dans l'équipée sauvage. Deux heures de gaieté et de découverte pour vous. De rivalité et de haine recuite pour eux. Car oui, dans quelques instants, je vous présenterai notre invité du jour qui a connu cette rédaction du temps dit des années folles. Période bénie, où après avoir mis un bon coup le matin, les journalistes d'Europe 1 prenaient ensuite une belle pause déj avant de s'offrir une sieste bien méritée en salle de repos. Tout ça est terminé depuis qu'Arnaud Lagardère m'a ordonné de remettre de l'ordre dans cette rédaction. Avec moi, ce n'est plus la même musique. Désormais, chaque après-midi, les journalistes d'Europe 1 sont en compétition au service de votre culture G. Et je peux vous dire que si à l'antenne j'ai l'air sympa, hors antenne, je les travaille au corps.
Appelez-moi chef, vous apprendrez à me connaître. Les grands, je les casse en deux. Les petits, je les allonge. Un conseil, ne jouez pas au plus con avec moi, vous n'êtes pas sûr de gagner.
À ma gauche, mon aide de camp, le maréchal des logis rock. Bonjour Eva.
Ça va bien ça. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous avez à côté Père Fouettard.
Ouais, c'est ça. Enfin, Mère Fouettard.
Mère Fouettard. Tout à l'heure, vous direz ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir. Mais d'abord, accueillons notre invité arbitre du jour, un ancien d'Europe 1 qui fait désormais les beaux jours de France 5. Chaque dimanche, il présente ses politiques, une émission qui parle de politique différemment, avec toujours un pas de côté qui la rend passionnante. Bonjour Karim Rissouli.
Bonjour Mathieu.
Déjà, ça vous fait quoi de vous retrouver face à un micro bleu et blanc?
Ça fait 10 ans.
Et ça fait 10 ans.
Ouais, j'ai presque envie de pleurer.
Bah oui.
Et c'est vrai qu'il y avait quoi ?
Il y avait des siestes.
Il y avait des repas arrosés. Ça marchait super bien, mais ça va revenir.
C'est en train de revenir, Karim. On va parler du succès de C'est Politique, votre émission qui dépasse souvent les 900 000 téléspectateurs, c'est ça, Karim ?
C'est ça.
Mais Karim, tous vos anciens collègues n'ont pas eu la chance, comme vous, de voir leur carrière décoller en télé. Les voilà donc réduits à s'entretuer pour vous distraire chaque après-midi. Véritables gladiateurs des temps modernes, je vous présente nos deux premiers concurrents du jour. Chacun rêve de cette couronne en plastique synonyme de suprématie dans le championnat européen des journalistes. À ma gauche, il est l'incarnation de ce que la compétition peut créer de pire en l'homme. Une volonté de vaincre qui éclipse toute notion d'éthique et qui autorise les pires agissements, comme contribuer discrètement à la chute d'un collègue dans l'escalier par une légère pichenette.
Je l'ai pas fait exprès.
Je vous présente Jean-Philippe Ballas.
Comment ça va Mathieu ?
Ah bah moi ça va. Vous êtes notre expert en belles histoires qui font soit rêver, soit chialer. On est entre les deux aujourd'hui avec l'histoire des Beatles au féminin.
Ouais, je vais vous parler de l'un des tout premiers groupes de rock de filles de l'histoire. C'était au début des années 60. Elles s'appelaient les Liverbirds. Elles étaient quatre, elles étaient de Liverpool.
Mais non.
Et vous verrez que toute ressemblance n'est pas forcément fortuite.
À ses côtés, Karim, je vous présente un journaliste dont les performances dans notre championnat sont comparables à celles d'Angers en Ligue 1. Moyenne. Il avance tranquillou bilou. Depuis l'époque où vous le fréquentiez, il a pris du galon puisqu'il peut désormais se prévaloir du titre ronflant de vice-chef adjoint délégué du service culture. Titre qu'il avait fêté au champagne à la cafette.
Je suis le
Oui, oui, bah. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Mathieu, de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Bah de Netflix, vous m'avez demandé. Vous m'avez dit, je comprends rien Netflix, aux fonctionnalités cachées, l'algorithme, tout
Mais
ça.
Oui.
J'ai enquêté, je vous dis tout, comment déjouer la pieuvre Netflix.
Ça, c'est fort. Merci Mathieu Charrier, je crois que tout est dit. L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Karim Rissouli, présentateur de C'est Politique sur France 5, est donc notre invité aujourd'hui. C'est Politique, si vous ne connaissez pas, c'est cette émission de France 5 chaque dimanche à 18h35 où on parle politique, ou en tout cas d'enjeux politiques, mais sans homme politique.
C'est original.
C'est votre martingale. Mais en fait, ça marche très fort et je pense que plein d'émissions vont vous imiter maintenant.
Je crois qu'ils ont un peu commencé à nous imiter. Il y a des interviews politiques le matin sans homme politique maintenant sur certaines radios.
C'est vrai.
Et oui, et ce qui est assez fou, c'est qu'on l'a mis en place l'année présidentielle, en 2016. Donc c'était un peu compliqué de dire on a une nouvelle émission avec des
mais
nouvelles têtes, vous ne nous connaissez pas. Et en plus, vous ne connaîtrez pas les invités non plus, c'est super. mais effectivement ça marche parce que oui, le postulat c'est que la politique appartient à tout le monde. Mais ici aussi vous parlez de politique tous les jours aussi à votre manière. Donc
Si. Non, vous vous confondez, vous écoutez notre radio. Mais ce que je veux dire c'est que les hommes politiques eux-mêmes, ils ne sont pas en manque de cette émission. Ils n'aimeraient pas venir, ils ne vous passent pas des coups de fil pour dire bon Karim, moi je suis un homme politique mais je peux...
Ils passent des coups de fil mais ils commencent à comprendre, ça fait 3 ans et demi maintenant.
Ils insistent plus.
Si certains insistent encore, peut-être qu'ils ne nous regardent pas beaucoup. certains insistent, mais on tient le coup. Et donc oui, on invite des intellectuels, des artistes.
Les politiques, vous les trouviez, à force de les fréquenter, trop rodés à l'exercice journalistique?
Oui, et puis ils étaient partout. Ils étaient partout. Il y avait 15-20 interviews politiques par jour quand on a commencé l'émission.
Aujourd'hui, le succès est au rendez-vous en termes d'audience, mais est-ce qu'au début, ça a été difficile à imposer à la chaîne cette volonté de ne pas recevoir de politique?
Non, la chaîne était plutôt pour ça. Ça a été compliqué pour nous en interne, parce qu'il y a la peur, il y a la peur du vide. C'est facile d'inviter Nicolas Sarkozy, François Fillon, Ségolène Royal et consorts. C'est très facile en termes de programmation. Mais quand on commence à inviter des intellectuels qu'on veut en plus s'imposer la parité homme-femme, etc., etc., on se met des contraintes assez énormes, mais au bout du chemin, ça fonctionne.
Oui, est-ce que vous n'êtes pas aussi arrivé à un moment où la génération d'hommes politiques, c'était à la fois les anciens qu'on n'arrêtait pas de voir partout, comme vous dites, et puis la nouvelle génération qui n'était pas très connue non plus,
si,
des
c'est
Français,
vrai.
Et pas
moi,
forcément intéressante.
Après Europe 1, j'ai fait un détour par Canal+, à une époque où il y avait encore dans le personnel politique des gens comme Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal. 2007 par exemple, alors j'étais encore à Europe, mais c'était une année où on avait envie de, limite de stariser les politiques. Et c'est vrai que et c'est, je pense très bien que ça ait changé, les politiques sont devenus peut-être des personnalités un peu plus normales, entre guillemets, qui doivent faire leur job de politique, et du coup, puisqu'ils ne sont plus des stars qui vont sur les plateaux télé. Et c'est vrai qu'on est arrivé aussi à ce moment-là, je pense, de l'évolution du personnel politique.
Qui sait, il va peut-être vous réconcilier avec les émissions politiques. Il présente ses politiques chaque dimanche à 18h35 sur France 5. Karim Rissouli est avec nous cet après-midi.
Europe 1.
À suivre, attention Karim, ici vous devez noter nos journalistes avec votre esprit et non avec votre cœur, et je sais que ça sera dur avec Jean-Philippe Ballas. Car oui, le carbone 14 est formel, Karim. À l'époque où vous n'étiez que stagiaire à Europe 1, Jean-Philippe était déjà là.
Et même du temps des pharaons, figurez-vous.
Oui, c'est vrai. Tragique retournement de situation pour celui qui a été votre rédacteur en chef. C'est à vous aujourd'hui de noter le Jean-Philippus Ballasus. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipé sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. 2 heures d'une joyeuse castagne entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui guerroient au service de votre culture G et sous l'égide d'un invité arbitre, un ancien de la maison devenu présentateur star de France 5, Karim Rissouli. Karim qui force l'admiration de ses anciens collègues, pas vrai Charrier?
T'as bien rebondi mon salaud.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais le moment est venu de découvrir Jean-Philippe Ballas qui, depuis que je lui ai inventé une vie sur l'appli de rencontre Tinder, vient désormais nous voir à reculons, tremblant de stress à l'idée que sa femme nous écoute.
Tu sais que je vais avoir des problèmes à la maison, hein.
Ouais, je sais, beaucoup ont eu des problèmes à la maison à cause de moi. Ouais. Et une fois, j'ai même eu des problèmes moi-même.
Ouais, il y a des relations win-win, nous Jean-Phi, c'est lose-lose, hein. Heureusement, vous allez encore nous raconter une belle histoire aujourd'hui.
Bon, on connaît tous John, Paul, George, Ringo. Bah, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Pam, Sylvia, Marie et Valérie. 4 gamines de Liverpool, elles aussi. Alors, on est au début des années 60. À l'époque, tout le monde veut jouer de la musique, faire du rock, avoir son groupe. Tout le monde, sauf Marie, peut-être. Alors, elle veut plutôt devenir bonne sœur. Vous voyez, elle veut aider les autres. Mais bon, avant d'entrer dans les ordres, elle a une idée. Pour gagner beaucoup d'argent et mettre sa famille à l'abri, elle va faire comme ces 4 garçons qui jouent dans cette boîte de Liverpool près de chez elle, le Cavern Club. Elle veut faire comme les Beatles, et elle va presque y arriver. Alors personnellement, je ne connaissais pas du tout cette histoire, l'histoire de ce groupe, les Liverbirds, c'est le nom d'un oiseau, c'est même l'emblème de la ville de Liverpool. Et j'ai trouvé cette histoire sur le site du New York Times, c'est un mini-documentaire génial, je vous encourage à aller voir, où on voit ces femmes qui sont aujourd'hui devenues des grands-mères, et qui vous racontent ce moment assez important de leur vie.
Un jour, un ami nous a demandé « ça vous dirait de rencontrer les Beatles ?»
Yes.
Alors ils nous ont emmenés dans les loges, on avait nos instruments avec nous. Dans la pièce, il y avait John Lennon et Paul McCartney. On nous a présenté, ce sont les Liverbirds, le premier groupe de rock de filles de Liverpool. Et on nous a demandé, il y a quoi dans vos étuis? Une guitare, j'ai répondu. Alors John Lennon a ricané, il a dit, les filles ne savent pas jouer de la guitare. Nous on a pensé, oh tu vas voir. Et on s'est mis à répéter.
Et bim, John Lennon quand même. Hein.
Mais donc, il était macho, notre John Lennon.
À peine.
Bah, ensuite, je pense que Yoko Ono l'a bien dressé. Hein, ouais. À mon avis.
Et je pense qu'à Liverpool, à l'époque, c'était assez commun. Alors, elles vont répéter, effectivement, et ça va marcher. Alors, elles veulent faire absolument tout comme les Beatles, parce qu'elles vont aller jouer dans les clubs d'Hambourg en Allemagne, comme les Beatles. Elles vont commencer à fréquenter les Kings quand même, à fréquenter Jimi Hendrix. Et elles vont même avoir un tube peanut butter, en français, beurre de cacahuète. Bref, elles chansons sur la voie du succès, les Liverbirds, jusqu'au jour où la batteuse Sylvia se retrouve enceinte. Alors, la grossesse se passe pas vraiment bien et le docteur, il lui dit carrément, bah, faut arrêter le rock, faut arrêter les tournées si vous voulez que ça se termine bien, cette histoire. Et puis, l'une des autres musiciennes va laisser tomber aussi peu de temps après parce que son petit ami a un grave accident de la route et elle veut être à son chevet, tout simplement. Et c'est comme ça, doucement, que les Liverbirds vont disparaître de la scène à une époque où ça va très vite. Hein. Si on veut avoir du succès sur le long terme, faut vraiment enregistrer. Et aujourd'hui, elles racontent donc leur histoire au New York Times. C'est ça qui est bien, le font sans aucune amertume. Elles montrent les coupures de presse de l'époque, elles sont plutôt contentes. Il y a même des vidéos, on les voit aujourd'hui, donc grand-mère avec le perfecto et la basse et la batterie sur scène, jouer avec des jeunes musiciens. Et le plus troublant, c'est qu'il reste deux membres survivantes des Liverbirds, comme les Beatles. Et il s'agit de la bassiste et de la batteuse. Comme les Beatles. Voilà, la ressemblance jusqu'au bout. Les Liverbirds. Allez voir, alors c'est en anglais évidemment, mais rien que pour voir leur tête, c'est génial.
Leur titre Peanut Butter, on rigole parce qu'on trouve ça rigolo Peanut Butter, mais on rappelle Jean-Philippe qu'une des chansons les plus célèbres des Beatles a failli avoir un nom ridicule aussi. C'était quoi?
C'était Yesterday.
Yesterday, qui aurait dû être Scrambled Eggs. C'était le titre original de la chanson. C'était Scrambled Eggs, Scrambled Eggs.
C'était McCartney, il cherchait un texte, donc il disait Scrambled Eggs, baby, I love your legs. Donc, brouillez, bébé, j'adore tes jambes.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Ballas. Ah, je crois que vous avez un SMS, c'est qui?
Mon polo, Paul McCartney.
Non, quel mytho, ce Ballas, mais quel mytho.
Europe 1.
À suivre, après le succès de Petit Meurtre en famille, Europe 1 vous propose Petit Meurtre entre collègues. J'ai eu beau leur expliquer que le concept de compétition n'était qu'un prétexte rieur, certains journalistes n'ont plus du tout envie de rire, comme Mathieu Charrier, le monsieur cinéma d'Europe 1, qui vient aujourd'hui laver son honneur après les déclarations tonitruantes d'Axel de Tarlet, notre expert éco hier.
Je vais parler aujourd'hui de cinéma, et vous allez voir Mathieu Charrier, le spécialiste de cinéma d'Europe 1, va pouvoir aller se rhabiller.
Votre honneur, Mathieu Charrier, sera-t-il sauf? En tout cas, vous allez nous apprendre à nous servir de Netflix comme un pro, c'est-à-dire en déjouant l'algorithme pour découvrir de nouveaux films et de nouvelles séries. Mais avant ça, voici Doja Cat, Say So sur Europe. Say So, c'était la Californienne Doja Cat sur Europe.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Coup de fouet pour vos neurones, caresse pour vos zygomatiques, bienvenue dans l'équipée sauvage. Deux heures pour rire et découvrir en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1, ou plutôt en ce jour de grève de ceux qui étaient motorisés, et sous l'égide d'un invité d'honneur, un ancien de la maison, désormais présentateur de C'est Politique sur France 5, une émission qui a pris acte que les débats politiques entre politiciens étaient souvent stériles, voire inaudibles.
Assez !
Vous faites un joli
métier !
Quelle salope de la part du gouvernement !
Karine Rissoli a pris un autre parti, celui de parler de politique avec des gens qui n'en font pas. 800 000 téléspectateurs en moyenne pour C'est Politique chaque dimanche sur France 5. Est-ce que vous imaginez déjà que le concept marcherait à ce point?
Pas du tout.
Vous aviez des objectifs d'audience, des
trucs
comme ça?
Non, quand on a récupéré la case, elle devait être à 380 000 environ.
Vous l'avez plus que doublé.
384, bon ok, je sais. Bon, elle devait être
le
à
mec
ça.
Qui regarde pas les chiffres.
Pas du tout, jamais. Donc oui, on avait déjà l'objectif de faire aussi bien. On se disait que ça allait être compliqué, qu'on installait une nouvelle, voilà, encore une fois, une nouvelle marque avec une nouvelle façon de parler de politique. Non, je pensais jamais qu'on serait... On est quasiment tous les dimanches à plus d'un million entre 19h et 20h. Et je ne pensais pas qu'on en serait là, mais je pense qu'on va continuer à monter.
Avec donc des noms politiques, mais des personnes quand même qui ont un avis sur notre société, sur la politique, comme Ariane Ascari, par exemple, dimanche.
Pas pour me dire que leur programme est le bon et que celui de l'autre en face n'est pas le bon. Alors, Ariane Ascari, elle est comédienne, elle vient, elle parle avec son cœur. Elle n'a pas fait une thèse de philo ou de socio, mais elle vient, elle nous parle de ce que c'est qu'être une femme et de ressentir la misogynie dans un corps de femme. On a parlé antisémitisme avec elle, on a parlé évidemment de la question sociale avec son dernier film. Et on reçoit aussi beaucoup de sociologues, de philosophes, d'historiens. Et c'est assez jouissif, justement, d'avoir quelqu'un en face de soi et de se dire, je suis pas là pour le coincer. Je suis là pour qu'on soit tous collectivement plus intelligents à la fin de l'émission qu'au début.
Alors Karim, aujourd'hui, vous êtes un journaliste reconnu, mais pourtant, votre destin aurait pu être tout autre. Les pelouses angevines portent encore la trace de vos fiers crampons. Vous avez commencé par la section sport-études au collège. Vous auriez pu devenir footballeur ou journaliste sportif au dernier mondial. Vous auriez pu vous égosiller.
J'ai Mbappé, tu es Mbappé, il est Mbappé, nous aime Mbappé, il est Mbappé.
Pas de regret de ce côté-là d'avoir choisi plutôt le journalisme politique dans un premier temps plutôt que le journalisme sportif.
Je pense surtout que le foot ne m'a pas choisi lui au départ. C'est-à-dire que j'aurais adoré être footballeur professionnel, mais j'étais pas suffisamment bon, je pense. Mais c'est vrai, Mathieu Charrier me regarde.
Faudrait rétablir une vérité sur cette histoire de foot de carrière. Alors, football,
Mathieu Charrier qui connaît bien Karine Rissouli.
Il veut vraiment que je vote pour lui.
Quelle est donc la réalité?
Allez-y.
Il y a eu quelques mois en sport-études qui ont été un échec.
Non, il y a eu quelques années en sport-études qui n'ont pas été un échec, mais il y a eu une sorte de légende urbaine. Il disait que j'avais fait le centre de formation du SCO d'Angers et que j'étais à deux doigts de devenir professionnel, ce qui n'est pas vrai.
Mais vous faites une émission sans politique, vous pouvez faire un match sans footballeur.
C'est vrai. Mais c'est grâce à Jean-Philippe Ballas que je pense que je. Non, et c'est vrai, quand je suis arrivé à Europe 1, j'étais très très
jeune. Et c'est Jean-Philippe qui a fait de vous le journaliste que vous êtes.
Il m'a pris par la main.
J'espère que ça s'est arrêté là.
Et c'est vrai.
C'était une autre époque. Hein.
Il a été extrêmement. Si je devais faire un discours de remerciement un jour, qui sait.
C'est vrai,
il y aurait Jean-Philippe Ballas dedans.
Oh la vache, Charrier, vous n'allez pas avoir les points, vous, aujourd'hui. Hein. C'est mal barré pour vous. Karim, vous êtes né à Angers, mais votre papa est originaire du Maroc.
Ouais.
Et vous dites, vous racontez que vous avez été longtemps tiraillé par cette double culture.
Oui, quand j'étais donc franco-marocain, enfin, marocain par mon père, français par ma mère, et j'habitais dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une zone périurbaine. C'est un micro-village, petite ville à côté d'Angers, où on était la seule famille arabe du coin. Et effectivement, je me sentais pas totalement français là où j'étais, et pas du tout marocain quand je retournais au Maroc l'été. Donc quelques séances de psy m'ont bien aidé à l'adolescence.
À l'adolescence, ça. Il présente ses politiques chaque dimanche sur France 5. Du coup, le mardi, c'est pas une journée trop chargée pour lui. Karim Rissouli passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, justement, Mathieu Charrier va nous expliquer comment nous servir de Netflix comme un pro, déjouer l'algorithme qui vous propose des choix selon vos goûts, écouter Netflix comme la radio ou encore configurer plusieurs profils différemment. Par exemple, chez les Charriers, ils sont 6.
Un homme bien en chair, un homme très étrange, limite pervers, un nain aussi, qui prend plaisir à manger du jambon blanc toute la journée.
C'est toute une famille un peu complexe. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipé sauvage. L'équipé sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Vous notez bien les livreurs de sushi et les chauffeurs de taxi. Pourquoi ne pas noter aussi les journalistes? En 2020, plus aucune corporation n'échappe à l'ubérisation. Chaque après-midi, vous votez pour votre journaliste préféré parmi nos quatre concurrents. Sous l'œil de notre invité d'honneur, Karim Rissouli, dont la voix comptera triple en fin d'émission. Vous votez sur le fond comme sur la forme. Vous avez par exemple parfaitement le droit de donner vos points à un journaliste que vous aurez trouvé incompétent mais sympathique. Lui justement, il mise tout là-dessus.
Non, mais
sourire avenant, physique rigolo. Mathieu Charrier, c'est un... Mathieu Charrier s'est peu à peu spécialisé dans le cinéma. Sa cinquième passion après la tartiflette, le pâté en croûte, le tourneau de Rossini et les pâtes aux langoustines.
Tu les plonges dans le courbouillon, tu les manges direct.
Explosion de saveur.
Et oui,
c'est dans l'angoustine fraîche, il faut préciser. Encore vivant.
Mathieu Charrier, vous nous parlez de Netflix ou comment bien utiliser Netflix?
Oui, parce que comme moi, vous êtes sans doute déjà énervé devant Netflix, vous savez, parce que l'épisode suivant démarrait alors que vous n'avez rien demandé, parce que vous trouviez que les sous-titres, on voyait rien avec les. Parce que c'était du blanc sur du noir ou du noir sur du blanc, parce que Netflix vous proposait avec ce fameux algorithme, bravo l'algorithme, vous proposez des films ou des séries.
Des daubes.
Dont vous n'avez absolument rien à faire. En fait, tout est de votre faute.
Comment ça, tout est de ma faute? Pas du tout.
Si, si. Alors, on commence avec cet algorithme. Déjà, la première chose, Mathieu, créez-vous un compte personnel. Pourquoi je dis ça? Un profil bien à vous. Vous savez, quand vous arrivez sur la page d'accueil de Netflix, vous cliquez sur vos profils. Vous avez un gros plus à droite, si vous voulez en créer un personnel. On va sur plus, parce que ce qui se passe souvent, c'est que vous allez créer un profil, par exemple, pour votre couple. Bon, si vous n'êtes pas là, votre femme, elle peut regarder une série qui ne correspond pas à vos goûts à vous. Sauf que Netflix, il pense que c'est vous qui regardez cette série.
C'est pour ça qu'il y a tant de daubes.
Ben voilà,
qu'est-ce qu'elle regarde, la compagne?
C'est moche, ça.
C'est de la faute de madame. Ou alors, quand vous allez chez des amis, vous connectez votre profil, vous regardez tout un truc tous ensemble, mais ça ne correspond pas forcément à vos goûts. Donc la première chose, c'est de se créer un profil personnel, un profil par personne. Ensuite, sachez que vous pouvez modifier l'ordre d'apparition des films et des séries, justement, dans le petit onglet « Ma liste », vous savez.
Et comment?
Ça, c'est très simple. Vous allez dans « Profil »,« Ordre de priorité ». Et du coup, c'est vous qui organisez votre ordre de priorité. Et quand une nouvelle saison arrive d'une série que vous aimez ou un nouveau film, etc., ça apparaît directement et c'est pas noyé justement par l'algorithme de Netflix. Enfin, un petit conseil qui n'a l'air de rien, mais quand vous ouvrez votre compte chez un ami, vous savez, ou chez votre grand-mère ou chez votre cousin, peu importe, souvent vous oubliez de vous déconnecter. Mmh. Et donc ensuite, cet ami, même s'il est très honnête,
il va pouvoir
se reconnaître sur Netflix, il voit que le truc fonctionne, bon, il regarde des films. Là aussi, il faut se méfier parce que du coup, le goût de votre ami est pris en compte dans l'algorithme. Et alors là, je vous conseille une petite fonction très pratique. Une fois par an, on va dire, dans paramètres, vous allez, il y a quelque chose qui s'appelle déconnecter tous les appareils. vous déconnectez, ouais. Et ça déconnecte tous les appareils qui sont connectés avec votre compte à vous. Ensuite, vous vous reconnectez.
Ah, ça, c'est très intéressant.
Sur votre ordinateur.
Je suis sûr que j'ai laissé Netflix ouvert dans plein d'endroits.
Voilà, vous vous reconnectez sur votre ordinateur, sur votre télé, à vous, personnel, et vous êtes tranquille.
Et les sous-titres, Mathieu, on peut les modifier, ces sous-titres ?
On peut tout faire. Là aussi, vous allez dans mon profil, affichage des sous-titres, et vous pouvez choisir la police, la taille, et même si vous souhaitez, vous pouvez mettre un fond de couleur. Parce qu'effectivement, parfois, selon les films ou selon la qualité de l'image, ou si vous regardez quelque chose en noir et blanc, évidemment, le blanc ressort moins bien. Donc, vous pouvez mettre derrière un fond de la couleur que vous voulez, et vous y verrez évidemment beaucoup plus clair. Sachez aussi que sur Netflix, il y a un historique, comme sur un navigateur web. Ça, personne ne le sait. Mais quand vous laissez votre ordinateur ouvert au bureau, Mathieu, qu'on va voir avec Eva, on voit que la dernière série que vous avez regardée, c'est Planqueur. Là encore, n'oubliez pas, vous allez dans mon profil historique et vous pouvez faire tout masquer et c'est bon, c'est réglé.
Comme après, navigation privée sur Google.
Exactement. Et là, c'est bon. Netflix ne retiendra plus aucun des films que vous allez regarder. Vous êtes définitivement tranquille.
Jeudi dernier, notre invité Johan Sfar nous disait que lui, il écoutait les séries, il ne les regardait pas parce qu'il dessinait en même temps. Vous avez une fonction pour ça ?
Oui, il y a une fonction tout en bas de la page d'accueil de Netflix. Vous avez un lien tout simplement audio description. Vous savez, il y a quelques films qui sont en audio description dans les salles. Et ben Netflix fait beaucoup de films ou beaucoup de séries, les adapte en audio description. Donc là, suffit de cliquer sur cette petite option et effectivement, vous pouvez écouter la série sur votre vélo avec vos écouteurs, dans le train. Vous savez, il y a aussi un truc sur Netflix moi qui m'énerve, c'est à la fin. L'épisode suivant, il s'enchaîne automatiquement. Alors, vous êtes sous la couette en train de regarder votre truc, vous avez la flemme de vous lever pour aller déconnecter ou pour aller mettre stop. Donc, vous vous faites avoir, la série recommence et vous continuez. Là aussi, c'est très simple. Mon profil, paramètres de lecture et vous désactivez, lancez automatiquement le prochain épisode. Enfin, il y a un truc que j'ai découvert. Est-ce que vous savez que vous pouvez réclamer un film ou une série
réclamer,
à Netflix ?
C'est-à-dire
S'ils ne l'ont pas dans leur catalogue, vous allez sur la page d'aide, il y a un petit formulaire. Demandez des films ou des séries télé. Et s'il y a effectivement un certain nombre de personnes qui réclament un film ou une série, bien Netflix va tenter d'acheter la licence et de le diffuser.
On remercie Mathieu Charrier. Axel, un mot sur votre concurrent qui serait susceptible de sceller votre réconciliation ?
Moi, je ne voterais pas pour toi si j'étais moi.
Merci quand même.
Europe 1.
À suivre, l'équipe est sauvage continue toujours en compagnie de Karim Rissouli qui présente ses politiques sur France 5 le dimanche à 18h35. Et Karim, connaissez-vous ce moment toujours gratiné de l'émission où l'invité affronte Eva Rock sur un quiz dont le thème ne laisse pas la moindre chance à Eva de l'emporter?
Ah, je trouve ça indéfendable.
Oh oui, on connaît. Super. Votre victoire n'en sera que plus savoureuse. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est une parenthèse rieuse dans cette terrible compétition qu'est l'équipe est sauvage, l'heure où les belligérants marquent une pause pour s'offrir une tranche de rire en écoutant Eva Rock se prendre les pieds dans le tapis du quiz. Un quiz qui traditionnellement oppose Eva à l'invité et où, tout aussi traditionnellement, Eva use de tous les subterfuges pour essayer de s'en sortir, comme hier. Quand on vide un lavabo, ça fait un petit tourbillon. Eh bien, le sens de rotation de l'eau dépend de l'hémisphère dans lequel on se trouve.
Oui, c'est vrai.
C'est faux.
Non, mais attendez, j'ai pas encore répondu.
Ah, si. Eva, essayez au moins de perdre dans la
nulle.
Dignité.
Ah ouais, non,
ça
mais
sera mieux.
Même pour la triche, je suis nulle.
Karim Rissouli, vous êtes un des journalistes politiques les plus brillants de votre génération. C'est pourquoi tout naturellement... Charrier, vous venez de perdre
Est-ce que je peux voter dès maintenant ?
Vous pouvez d'ores et déjà éliminer certains journalistes. C'est pourquoi tout naturellement, le quiz portera sur la politique, mais au sens très large. C'est un vrai faux. Chaque bonne réponse vaut un point. C'est parti. Karim Rissouli, vous connaissez mes origines helvétiques, ainsi que ma passion pour le chocolat. Eh bien, il existe à Lausanne un chocolat praliné appelé le Giscard. Vrai ou faux ?
Vrai.
Vous l'avez déjà goûté ou...
Non.
Vrai. C'est un praliné particulièrement apprécié par l'ancien président de la République quand il était à l'Élysée. Ce confiseur de Lausanne a décidé de le baptiser le Giscard, une coque en chocolat fourrée d'un caramel liquide et d'une ganache fermée par une tuile aux amandes. Valérie Giscard d'Estaing en reçoit une petite boîte tous les ans à Noël.
Je cherchais une vanne, mais elle ne me vient pas. J'ai peur de dire un truc très très vulgaire. Allez-y, posez-moi ma question.
On peut vous laisser le temps, si vous voulez développer. Peut-être ça va vous venir. Et Baroque, en 2012, pendant un meeting sur la place de la Concorde à Paris, au moment de serrer des mains à des militants, Nicolas Sarkozy leur a également demandé de verser des pièces jaunes dans une petite boîte, une initiative proposée par Bernadette Chirac. Vrai ou faux ?
On aurait vu cette image.
On aurait vu cette image. Hein.
On aurait vu cette image. Ou pas.
Parce que les journalistes politiques.
Non, c'est trop gros. Je dirais faux.
Vous dites faux ?
Ouais.
Vous êtes sûr de vous ?
Non, je suis pas sûr de moi, mais je dis faux.
C'est votre dernier mot ?
C'est mon dernier mot.
Bon, vous avez raison, c'est faux. Par contre, avant de serrer la main.
Douillet ? Non, c'est pas David Douillet qui a. Mais si.
Ah, attendez, scoop, mais David Douillet a demandé à des gens de verser des pièces d'or directement.
Mais il était aux opérations,
place
Bernadette.
De la Concorde, il a fait un meeting, il a demandé.
Non, par contre, avant de serrer la main des militants, il a caché Nicolas Sarkozy sa montre dans sa poche pour éviter de se la faire voler.
Non.
Prudente précaution, car c'était une Patek Philippe estimée à 55 000 boules. Quand même, hein. Donc, on fait attention avec ce genre de montre. Karim Rissouli et Varok, vous jouez simultanément. En septembre dernier, les Républicains ont organisé une réunion publique à Rennes, mais il y a eu un petit bug. Lequel ? 1. On a annoncé la présence de Jean-Louis Aubert, alors que c'était le député Julien Aubert. Christian Jacob devait faire son entrée sur la chanson « Changer la vie » de Goldman. Et une erreur a fait qu'il est arrivé sur « N'y va pas ».
Non, c'est pas ça.
Valérie Pécresse
ce serait bien, ça.
Avait ouais, un pupitre rose et Laurent Wauquiez un pupitre bleu. La photo a fait le tour des réseaux sociaux.
Réponse B.
Christian Jacob est arrivé sur N'y va pas.
Ouais.
Eh ben, non, je crois qu'il y a une histoire avec Goldman, mais ça, c'était pas ça l'histoire, donc je dirais pas
ah,
ça.
Mais il n'y a pas de réponse D.
Ouais, là, c'est pour ça. Là. Non, mais c'est pour ça que je pense que c'est pas ça. C'était
mais
quoi
donc,
la première
il faut donner une réponse, c'est là, cette
Non, j'adore la première, Aubert.
Vous adorez la première. Mais le jeu ne consiste pas à adorer
oui,
une réponse, c'est
quand
de
même.
Trouver la bonne.
Je l'adore quand même.
Donc vous dites réponse
Ouais, A.
Réponse A
Ouais.
Bonne réponse, des Varok. Jean-Louis Aubert, c'était Julien Aubert qui organisait ce meeting. Il était candidat à la présidence des Républicains. Il a d'ailleurs tweeté avec humour désolé, la venue de mon alter ego, c'était juste une illusion. Oh. Il allusion au répertoire de l'ex-chanteur de téléphone. Eva Rock
mène.
Oui. Déjà, elle mène, et c'est important de le souligner parce que c'est rare.
Merci Karim Rissouli.
Et c'est à vous, Eva. Oui. Eva, le maire de Barneville-Carteret, dans la Manche, a décidé de publier tous les mois dans le bulletin municipal de sa commune la photo d'un fonctionnaire de la commune, homme ou femme, en petite tenue. Vrai ou faux ?
C'est crétin comme idée,
je
ça.
Je ne vous demande pas de commenter. Les questions, je vous demande d'y répondre.
Pff, c'est tellement bête que oui.
C'est faux.
Ah, bah, heureusement.
À Barneville, le maire a décidé de publier des lettres d'insultes qu'il reçoit pour montrer que même dans une petite ville, le maire pouvait souffrir de la méchanceté gratuite de certains de ses administrés.
Ah,
c'est
mieux,
une vanité.
Enfin, on ne lui souhaite pas, mais c'est mieux.
Enfin, cette question va vous départager. Karim Rissouli, notre Premier ministre Édouard Philippe, collectionne les hérissons en porcelaine, les boutons de manchette ou les boîtes de camembert. Cette question vaut 2 points.
Évidemment, Eva.
Pour que l'un reste égal, nous finissons en régie.
Bon. Bouton de manchette, ce serait un peu chiant.
Bouton de manchette, hérisson en porcelaine ou boîte de camembert.
Boîte de camembert.
Boîte de camembert, c'est une mauvaise réponse. Notre Premier ministre collectionne les boutons de manchette. Un document le prouve. La qualité sonore n'est pas très bonne, mais c'est un témoignage vraiment passionnant.
Il y a la paire, la première paire que j'ai achetée, la paire du régiment de garde, que vraiment, j'ai un très bon souvenir de ça. J'ai les seuls boutons de manchette.
Oui, monsieur le Premier ministre, en fait.
Il y a une paire, mais très chère, paire de boutons de manchette.
Non, mais nous n'avons pas le temps. Le tourne.
Ne représente rien. Ce sont deux petits.
Coupez-le. C'est bon, c'est fini. Qui remporte le quiz ?
C'est moi.
Eva.
C'est moi.
Non, parce que la première question valait 4 points. Non
oh
ah, c'est juste. C'est Karim Rissouli qui remporte le quiz, les amis. Bravo. Quel talent, ce Karim Rissouli.
Et pour le coup, je crois que l'extrait que vous venez de diffuser, c'est d'un reportage sur France 3 qui avait été fait par un des meilleurs amis d'Edouard Philippe, dont j'ai oublié le nom de famille, pardon.
C'était mon pote de droite.
Mon pote de droite. Un excellent documentaire que vous pouvez retrouver.
Ça fait surtout du netton, cet extrait.
Bah oui, non, mais...
Karim, on n'ira pas jusque-là. Karim Rissouli, vous présentez ses politiques. Est-ce qu'un jour, vous pourriez... on sait qu'on parlera tout à l'heure de vos engagements citoyens. Est-ce que vous pourriez vous engager en politique ? Franchir le pas.
Non.
Ça, c'est sûr que non.
Certain.
Il ne fera a priori pas de politique, mais comme disait Gamblin dans Pédale douce...
Il ne faut jamais dire Fontaine.
Karim Rissouli nous accompagne jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, vous connaissez le cliché selon lequel les Français seraient bordéliques et indisciplinés ? Eh bien, selon une étude, il se pourrait que ce soit vrai. La comparaison entre le comportement des Français et des Japonais au feu rouge piéton est édifiante. En gros, devant le petit bonhomme rouge, le Japonais s'exclame. En gros, ça l'énerve parce qu'il est pressé, mais il ne bouge pas. Alors que le Français lui s'exclame.
Allez, vas-y, on s'en fout.
Même s'il n'est absolument pas pressé, comme Eva. Explication scientifique à suivre, juste après Coldplay, justement. The Scientist sur Europe. The Scientist, c'était Coldplay sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours Europe 1, l'équipe est sauvage se poursuit avec Karim Rissouli. Vous présentez Karim tous les dimanches sur France 5, c'est politique. Mais il est maintenant l'heure de savoir si vous êtes quelqu'un de discipliné. Un feu rouge par exemple en tant que piéton, Vous attendez, ou bien s'il n'y a pas de voiture, vous y allez. Parce que le respect du feu rouge est très différent d'un pays à l'autre. Il en dit long sur l'état d'esprit d'une population. Bonjour Arthur Mbaché.
Rouge, piéton. Bonjour Mathieu, salut tout le monde.
Alors aujourd'hui, vous allez nous aider à trancher une question étonnante. Est-ce que nous nous sentons plutôt macaque ou mouton quand on est face à un feu rouge ou un passage piéton? La réponse se trouve dans une étude très sérieuse menée par des chercheurs de l'Université de Strasbourg. Ça bosse.
C'est ça. Et d'abord, écoutez ces deux chiffres incroyables sur le taux de respect du bonhomme rouge. À Nagoya, au Japon, moins de 5% des gens traversent alors que le petit bonhomme est rouge. En France, précisément ici à Strasbourg, on est à 80% de non-respect. Bref, ici, le truc ne sert quasiment à rien.
Vous nous avez vendu, Arthur, du macaque et du mouton. Là, on ne voit pas le rapport pour l'instant.
Alors, c'est le deuxième enseignement des travaux de l'éthologue strasbourgeois Cédric Sueur. Vous savez, l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal, y compris le vôtre, le mien, y compris humain, quoi. Ce chercheur, donc spécialiste du macaque, travaille aujourd'hui sur les piétons, en particulier sur les groupes de piétons qui attendent au feu. Alors, vous avez le premier type qui dit « Allez, tant pis, je traverse ». Comment réagissent les autres? Macaque ou mouton?
C'est ça qui va être intéressant avec les Français, c'est-à-dire que chez les Français, il y en a un qui va partir et on ne va pas regarder les autres si on décide de partir, quel que soit le nombre d'individus qui est restant. On part, voilà. Alors que chez les Japonais, on en voit un qui part et puis on voit les Japonais qui sont se regarder entre eux, il y en a un d'autres qui se décident de partir, puis d'un seul coup, on va avoir une phase où on sent que tout le monde décide de partir en même temps et là, tout le monde part en même temps, en fait. Mais ils se sont regardés avant et ils se regardent en se disant « est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ?» Et on a ces phases à un moment donné où tout le monde se décide de partir. C'est des comportements qui sont assez similaires à ce qu'on peut observer justement chez les animaux, avec plus le côté primate chez les Français et plus le côté très mouton, très cohésif chez les Japonais.
Et donc ces recherches, Arthur, pourraient mener à quel type d'application?
Alors des dispositifs pour nous inciter à respecter, on l'espère, un peu ce fameux bonhomme rouge, sachant qu'un tiers des accidents implique des piétons. À Strasbourg, il va y avoir des tests, un chronomètre par exemple qui affiche le temps qui reste à attendre, alors ça existe déjà un peu par-ci par-là, des panneaux avec des images dissuasives avec fort impact psychologique, des trucs inventés par des spécialistes du comportement. Il paraît que ça peut jouer sur notre respect ou pas du feu. En Chine, il existe un système incroyable. Un capteur repère que vous êtes en train de passer du trottoir à la chaussée.
Oula.
Et là, il y a un mini poteau qui vous vaporise, qui vous balance de l'eau sur les jambes. Ça vous rince complètement les jambes. Vous avez des vidéos de ça sur internet, ça a l'air plutôt dissuasif.
Ah, ça serait bien pour vous, Eva. Parce que vous êtes une petite coquine. Vous traversez toujours, déjà en dehors des passages cloutés.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est parce que vous êtes de Nice. Alors, à Nice, c'est peut-être la ville où on conduit le plus n'importe comment en France. J'embrasse nos amis niçois. Je suis moi-même partiellement niçois. Mais là, Eva, un petit pchit-pchit pour Eva. Très bonne idée. Bien joué, Arthur Elmachine.
Donc, à Strasbourg, il y a 80% de coquines.
Et c'est une info Europe 1. Merci, Arthur Elmachine.
Merci, Arthur. Europe
1. C'est une croisière mouvementée qui nous attend, nous aussi, dans la deuxième heure de l'équipe sauvage. Toujours avec Karim Rissouli, présentateur de C'est Politique sur France 5, nous accueillerons deux nouveaux candidats au titre de chroniqueur du jour, dont Ève Roger, chef du service société, qui nous revient après une absence due à ce que nous appellerons publiquement une maladie de saison, même si certains de nos invités dans la confidence, comme Michel Blanc, ne sont pas aussi pudiques.
C'est la saison, hein. Si on n'a pas une gastro maintenant, on passe à côté d'un grand truc, hein. C'est comme les boules sur le sapin. Mais bon.
Si elle est en état, Ève nous révélera une étude qui nous dit enfin ce à quoi pensent les hommes en faisant l'amour.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la Champions League des journalistes d'Europe 1. Quatre chroniqueurs, une seule couronne, l'équation est simple, Eva. Bref, la pression s'apprête à monter dans le cran avec deux nouveaux concurrents. On vous parlera notamment de cette basket à ressort tellement révolutionnaire qu'elle explique en partie la multiplication récente des records en athlétisme. Bonne nouvelle, vous allez pouvoir vous-même l'acheter. Lui aussi, son endurance est exceptionnelle. C'est notre invité, Karim Rissouli. Chaque dimanche, il présente ses politiques sur France 5. Mais avant cela, il a écrit deux livres sur François Hollande. Et pour ça aussi, il faut de l'endurance, surtout quand vous lancez Hollande sur le sport.
Parce que, en définitive, le sport, c'est une histoire qu'il faut raconter. C'est pas simplement des matchs que l'on découvre. C'est, en définitive, des feuilletons qui se passent sous nos yeux et peuvent connaître des gloires, puis après des déclins, puis ensuite des résurgences. Ce sont des matchs invraisemblables.
Si seulement il pouvait être 17h, il y aurait le carré, ça couperait la chute au président. Ah ! Alléluia ! Il est 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il présente ses politiques chaque dimanche sur France 5, l'émission politique sans homme politique, et ça cartonne, 800 000 téléspectateurs en moyenne. Et Karim Rissouli, on en parlait juste avant 17h, vous avez coécrit avec Antonin André deux livres d'entretien avec François Hollande. Vous avez gardé son 06 au président ?
Oui, j'ai gardé son 06, mais on est nombreux à l'avoir.
Est-ce que ça voulait dire qu'il l'avait beaucoup trop donné, qu'il parlait trop facilement aux journalistes ?
Oui, je crois qu'il s'en est un peu voulu. Ouais.
Il s'en est voulu. Il a regretté d'avoir parlé si librement.
Nous, on a fait un grand livre d'entretien avec lui qui est sorti fin août, qui ne l'a pas tué. Mais le livre de Davé et l'Homme qui est sorti mi-octobre l'a achevé. Donc je pense que oui. Il aurait dû réfléchir à deux fois avant de...
Vous qui l'avez rencontré, qui le connaissez, on dit toujours qu'il est extrêmement sympathique dans la vie. Alors je ne sais pas déjà si c'est vrai.
Dans la vie, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai jamais vu dans la vraie vie.
Enfin, je veux dire, avec vous, hors micro, c'est quelqu'un de
oui, c'est quelqu'un de... Oui, il serait très bien dans cette émission, François. si jamais il nous écoute, je pense que ça peut être un super invité.
Un super invité, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai, il fait beaucoup de plaisanteries.
L'invitation
pour ça.
Oui, mais nous, pas du tout, Eva. Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Pardon.
C'est politique, chaque dimanche, 18h35, des invités qui sortent de l'ordinaire pour commenter l'actu politique et sociétale. On continue d'en parler, Karim Rissouli. Simplement, le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour, avec d'abord une revenante. Le terme n'est pas trop fort. Alors, je suis un gentleman, évidemment, je tairai le nom de la maladie qui l'a cloué au lit et pas au lit la semaine dernière. Mais lorsque je l'ai discrètement soufflé à l'oreille de Tété, notre invité d'hier, il a immédiatement compati.
Aïe.
Bonjour Ève Roger.
Bonjour Mathieu, ça va très bien aujourd'hui.
Alors, je ne suis pas hypochondriaque, mais j'ai quand même défini un périmètre de sécurité minimale entre vous et moi, au cas où. Ève, vous êtes chef du service société et aujourd'hui vous avez des informations vitales à nous transmettre.
Eh bien oui, il y a un mois, on se posait ensemble la question à quoi pensent les femmes pendant l'amour. Ouais. Eh bien, je vous avais promis la contre-enquête, elle est là, la voilà, et j'ai été la première surprise.
Vous avez contre-enquêté vous-même, c'est ça qui est important de dire à nos auditeurs.
À quoi pensent les hommes pendant l'amour ?
Eva, vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, une petite précision, parce que c'est moi qui suis encore à côté d'Ève, Roger, donc qui, comme vous l'avez compris, a eu une gastro-entérite. La dernière fois qu'un invité était malade et avait une gastro-entérite, en l'occurrence Nicolas Bedos, qui était assise à côté de lui.
Oui, certes, c'était vous, mais qu'aviez-vous fait ensuite avec la bonnette de votre micro ? Vous l'aviez échangée avec celle de Thierry Geffrotin, parce que c'est lui qui tombe malade, et pas vous. Voilà la vérité nue, chers auditeurs. À ses côtés, Karim Rissouli. Je sais qu'on ne dirait pas comme ça, mais je vous présente notre expert sport. Alors évidemment, la fameuse tartiflette de Madame Lacroix est passée par là. Pourtant, je vous assure qu'à une époque, Jérôme Lacroix a été sportif. D'ailleurs, il continue de commenter ses propres performances nocturnes avec son épouse.
Pas d'étincelle de la paire, mais une prestation correcte.
Un débrief qui leur permet de progresser et d'éviter de tomber dans une routine. Bonjour Gégé.
Bonjour Mathieu, bonjour Karim, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'une chaussure magique.
Oui, on parle d'effet trampoline, on parle de renvoi élastique, on parle de carbone, on parle de mousse. Je vous raconte l'histoire de la chaussure qui faisait courir trop vite.
Voilà pour le programme de cette deuxième heure. Qui sera élu chroniqueur du jour ? Nous le saurons juste avant 18h. Mais pour l'heure, partons à la découverte de notre invité du jour. Connaissez-vous, et le cas échéant, que pensez-vous de Karim Rissouli ? On est allé vous poser la question. Voici, non pas un micro-trottoir, trop souvent falsifié pour flatter l'ego de l'invité. Voici notre micro-trottrache. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on n'a pas fait de montage. On a tout laissé.
Karim Rissouli de France 5, c'est politique.
Moi, je sens quelqu'un d'extrêmement tolérant, d'extrêmement ouvert, cultivé.
Il n'a pas l'air mal, hein ?
J'espère qu'il est neutre. Pour un journaliste, c'est tout ce qu'on lui demande. Si, c'est intéressant.
Karim Rissouli.
Je trouve qu'il est ouvert, qu'il écoute en fait toutes les...
Rissouli.
Tous les témoignages, quels qu'ils soient, en tempérant les choses et en permettant d'écouter les arguments de part et d'autre.
Il lit six livres, il connaît très bien le parcours de ses invités.
Karim Rissouli ? On ne peut pas connaître, on n'a pas la télé.
Moi, je suis toujours scotché devant l'émission, donc je ne quitte pas l'émission.
Rissouli !
C'est exceptionnel.
Bon, alors, Karim, à part que certains vous verraient bien vous appeler Harry Missouli,
oui, c'est très bien.
Ce qui est sympa aussi, globalement, vous inspirez confiance. Alors, évidemment, comme vous. Enfin, j'ai envie de dire évidemment, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, au contraire, vous appelez Karim, vous avez eu droit évidemment à votre lot de suspicions. Certains vous ont soupçonné d'avoir un agenda caché lorsque vous abordiez par exemple la question de l'islam dans vos émissions. Or, s'il y a quelqu'un qu'on ne devrait vraiment pas pouvoir soupçonner, c'est bien vous, car l'islamisme rigoriste, salafiste, vous l'avez croisé au sein de votre propre famille et ça vous a vacciné à vie.
Ça m'a traumatisé même. C'est une histoire familiale pas classique, parce que heureusement ça n'arrive pas à toutes les familles arabo-musulmanes, mais c'est dans la famille de mon père, donc marocaine. Mon oncle, enfin le deuxième de la fratrie de 11 enfants, est devenu l'un des tout premiers salafistes de la ville dans laquelle on habitait au Maroc.
C'était les années 90
À la fin des années 80.
Fin des années 80.
C'était un médecin qui n'avait absolument rien de religieux, qui je pense ne croyait à peine en Dieu à l'époque, puis qui d'un coup s'est trouvé un pouvoir en se laissant pousser la barbe et en devenant l'un des premiers salafistes du coin, et qui a totalement déchiré la famille de mon père. Donc qui s'est retrouvé scindé en deux clans. D'un côté, c'est mon père, qui est un laïc convaincu, et de l'autre, cet oncle salafiste. Et moi, je me suis retrouvé un été au milieu où j'étais parti seul en vacances au Maroc avec ma sœur, j'avais 8 ans.
Ah oui, donc influençable à l'époque.
Et pendant un mois, il a essayé de me mettre le grappin dessus, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a, il me faisait venir l'après-midi, genre je jouais aux cartes avec mes cousines, il me disait non, ça c'est pas bien, c'est, tu vas aller en enfer si tu fais ça, ton père ne fait pas la prière, il ira brûler dans les flammes de l'enfer, etc. etc. Ça m'a beaucoup traumatisé à l'époque.
Et vous en avez parlé à vos parents et c'est eux qui sont venus vous chercher.
Mes parents, ils sont arrivés, ça a été le début de la scission dans ma famille. Ouais. Mais je dis ça et je raconte un peu en longueur pour dire que quand aujourd'hui certains m'attaquent en me soupçonnant d'avoir effectivement un agenda caché, il suffit que je pose une question sur le voile à un invité pour qu'on imagine que derrière, j'ai envie d'en faire une interprétation politique. Ouais, ce sont des choses qui me touchent encore beaucoup, mais je travaille dessus.
C'est bien, et c'était important de raconter cette histoire pour mieux comprendre. Il réinvente l'émission politique chaque dimanche sur France 5. Karim Rissouli et notre équipier sauvage jusqu'à 18h.
Europe 1.
On a prié très fort Saint-Imodium, et Saint-Imodium a entendu notre prière. Ève Roger est de retour parmi nous avec un sujet qui ne peut que vous intéresser, mesdames. À quoi pensent les hommes durant l'amour ?
À la voix du général de Gaulle sur les ondes de la BBC.
La question que je posais, avez-vous vraiment envie de savoir ? Pas sûr.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Nous sommes toujours avec Karim Rissouli qui présente ses politiques chaque dimanche sur France 5. Karim qui joue ce soir les arbitres dans l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 qui se mettent sur la gueule au service de votre érudition. Un jeu qui se joue à 4 et à la fin, c'est Ève Roger qui gagne.
Ça m'énerve.
Ça vous énerve peut-être, mais c'est comme ça. Ève qui la semaine dernière a été contrainte de s'éloigner des micros quelques jours. Anne Le Gall en a profité pour lui chipper la première place du classement. Elle revient donc remontée à bloc. La dernière fois, elle nous avait révélé ce que pensent les femmes durant l'amour. On avait découvert que globalement, elle pensait...
Qu'est-ce que je fais là ?
Aujourd'hui, Ève, vous nous entraînez dans la tête des hommes pendant l'amour.
Eh oui, alors on va commencer par un petit air de pâte à choux pour aiguiser votre curiosité.
Il y a ceux qui font la chose en chantant une chanson, en battant la mesure, en tapant du talon.
Voilà, j'espère que tout le monde autour de cette table a compris ce qu'était la chose, avec plein de haut dans la bouche.
Regard luisant de Karim Rissouli, je crois que notre invité a compris.
Alors donc, à quoi pensent les hommes pendant l'amour ? On va commencer tout de suite avec un témoignage, nous l'appellerons David, beau gosse hétéro, la trentaine, grand bon et grand blond et musclé.
Grand bon, elle a dit.
Grand bon, j'ai entendu déjà.
Oui, l'inconscient déjà. C'est Benjamin Lévesque qui me l'a dit, puisque c'est lui qui lui a posé la question lors d'une soirée.
Je vais te surprendre, c'est que moi, quand je fais l'amour à une femme, le plus important, c'est le plaisir de ma partenaire. Je sais qu'il y a un mois, il y a une femme qui était comme ça. J'y allais doucement parce que c'était pour moi de la douceur avant tout. Mais non, elle voulait quelque chose d'un peu plus violent, un peu plus rentre dedans. Et c'est elle qui m'a demandé de lui mettre des fessées, etc. Et je me suis adapté en fonction de ce qu'elle voulait. Parce que moi, je suis satisfait quand cette demoiselle est satisfaite.
Alors, plusieurs surprises, la fessée d'abord. Et puis, tous ceux que j'ai interrogés me l'ont confirmé. Mathieu Charrier le premier.
Il pense... Mathieu Charrier dans cette galère.
Il pense, mais c'est lui, c'est vrai qu'il pense avant tout à leur partenaire, à leur plaisir et à son plaisir. C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire jouer une femme, mais pourquoi tant de générosité.
Surtout
j'étais
pour Mathieu Charrier.
Assez surprise, ce désir de faire plaisir du côté des hommes. Et vous allez voir le décryptage de la sexologue Catherine Blanc est un peu moins à leur avantage que ce qu'on aurait pu croire.
Les hommes sont assez préoccupés du plaisir féminin, mais c'est-à-dire de leurs propres compétences à faire jouir. Évidemment qu'ils cherchent tous azimuts où est-ce qu'ils pourraient avoir un écho de leurs compétences. Le bruit, le souffle, des seins qui se contractent, des yeux qui s'abandonnent. Et donc ils sont au spectacle de leurs possibilités. Ça n'est pas toujours simple.
Cet apparent altruisme, en fait, voilà. Cacherait, selon Karim, notre invité, peut-être une forme de mégalomanie.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Mais dont je ne suis pas...
Mais évidemment, évidemment. Je vous connais un peu, le sait.
Oui, alors, moi, ça a été quand même une révélation de réaliser qu'en fait, pendant l'amour, les deux pensent à la même chose, au plaisir féminin, l'homme et la femme. C'est quand même chouette, non ? Évidemment, les hommes... Alors, comme les femmes aussi, pensent parfois aussi à autre chose. Alors, vous avez d'abord les pensées teintées de culpabilité. Il ne s'est pas protégé, il n'a pas mis de préservatif. Ou il y a cette petite gêne quand il en lasse une autre que la régulière aussi. Et puis, il y a les pensées parasites, celles du quotidien. Une étude récente a montré que 20% des cadres pensaient au boulot pendant l'amour. Et chez Damien, on va l'entendre, jeune homme très investi, les faits...
C'est-à-dire que si, moi, je penserais à Eva, par exemple, pendant l'amour. Si je pense au boulot pendant l'amour.
Au boulot, pas aux personnes. On y viendra après.
Moi, quand je pense boulot, je vois Eva.
je vois la tête d'Eva qui m'insulte parce que j'ai oublié tel ou tel sujet, que je suis pas d'accord. Donc là, franchement, là, pendant l'amour, ça va être compliqué.
Vous allez voir chez Damien, passer au boulot, ça a un effet très radical.
J'étais rentré d'une journée de travail particulièrement harassante et il a fallu qu'à un moment donné, au moment où on changeait de position, j'ai repensé à ce que mon patron m'avait dit, une réflexion, et donc ça m'a directement cessé toute envie.
Voilà. Damien, ah Damien, ne changez plus jamais de position.
Il n'y a pas besoin. Restez dans la même position.
Évidemment, il faut remonter en selle. Et pour ça,
c'est bien dit. Elle.
Et pour ça, parfois, on convoque quelques fantasmes.
C'est vrai qu'en retour de soirée, des fois, il m'arrive de penser à des fantasmes tels que des films pour adultes, voilà, des actrices de films pour adultes, quand je suis éméché, effectivement.
Donc vous avez compris seulement quand il a vu.
Seulement,
hein, le reste du temps, il pense au plaisir de sa partenaire.
On ne pense jamais à des actrices de films pour adultes quand on n'est pas éméché. Ça ne viendra à l'idée de personne, évidemment.
Et pour conclure, je citerai mon voisin de bureau, un autre.
Donnez-nous un nom.
Donc je tairai le nom, mais on verra tout
Emmanuel Dutheil.
Non, c'est pas mon voisin de bureau.
Ouais,
il
y a deux,
il m'a dit juste avant de venir, quand je lui ai dit à quoi pensent les hommes pendant
Nicolas Caro.
Alors, je vous le dirai après.
Ah, voilà.
Écoutez la citation. Quand c'est ta maîtresse, tu te dis, faut que je me retienne. Non. Tu te dis, faut que je me retienne. Quand c'est ta femme, tu te dis, faut que je bande.
Oh mon Dieu, c'est horrible. Et donc, on a reconnu Nicolas Caro, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en plus, on connaît son épouse, elle était venue un jour charmante. C'est dégueulasse. Merci, Ève Roger, pour cette analyse du ressenti des hommes durant l'acte sexuel. Jérôme Lacroix, un commentaire sur le sujet.
Faut savoir être efficace quand on est sur le terrain, peu importe le temps qu'on y passe.
Pas mieux. À suivre, trop longtemps, nous avons été devant les écrans comme des marins sans boussole. Sans Eva Rock pour nous guider vers le bon film, la bonne série, nous voguions au hasard dans l'océan des plateformes de VOD, échouant parfois sur d'invraisemblables nanars avec des requins volants ou des serpents vicieux, où la seule chose qui fait peur, c'est les dialogues.
Mais d'où vient ce foutu serpent de merde ?
C'est vraiment affreux. Il a bondi des toilettes.
Oui, vraiment, plutôt que de partir seul à l'aventure, mieux vaut écouter les conseils d'Eva Rock juste après La Baie, la reprise de Métronomie par Clara Luciani sur Europe. La Baie, c'était Clara Luciani sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Chères auditrices, chers auditeurs, à tous ceux d'entre vous qui voulaient juste nous écouter en fond sonore pour se mettre du baume au cœur alors qu'ils avaient prévu de bosser en télétravail et qui n'ont pas rédigé une ligne depuis 1h30, je présente mes excuses et je vous invite à renoncer totalement à toute velléité de travail puisque voici la chronique la plus importante de cette émission, celle qui va vous dire comment, après avoir glandé devant la radio toute l'après-midi, vous allez pouvoir continuer de glander ce soir devant la télé. Karim Rissouli, vous êtes notre invité d'honneur, vous présentez ses politiques sur France 5 chaque dimanche et vous avez fait aux classes sur Europe 1, vous vous souvenez donc d'Eva Rock. Et à la question que vous vous posez fatalement, va-t-elle mieux ? La réponse est hélas négative. Il y a toujours ce problème de causalité dans ces phrases.
J'adore l'aubergine. Peut-être qu'il faut que je me mette à fumer ?
Alors, bien sûr, c'est une option. Croyez bien qu'avec le professeur Dussert, chef du service neurologique de Cochin, nous y réfléchissons, Eva. Heureusement, votre traitement vous laisse beaucoup de temps pour regarder la télé et les écrans.
Oui, oui.
Selon une étude de l'Université d'Oxford, vous savez combien de minutes on perd, Eva ?
Je crois que c'est 17 minutes.
Vous commencez à avoir compris. Ah, 17 ça, minutes chaque jour à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix. Heureusement, vous êtes là, Eva.
Oui, alors d'abord, petit préambule. 18 minutes et 43 secondes, c'est le temps que j'ai tenu devant la série de TF1. Los Angeles Bad Girls. Pour faire simple, ça ressemble quand même à un mauvais clip de 43 minutes. Minutes par épisode d'un mauvais morceau de R&B, ils mettent du R&B partout, voilà. Deux flics femmes, une blanche, une noire, une mariée avec un futur procureur, une habituée au plein Tinder. L'une sage, l'autre effrontée, tout est binaire et quand elles sont tirées dessus à coups d'armes de guerre, elles répondent « Oh là là, c'est du sérieux !» Voilà, même les dialogues sont ratés.
Ça
voilà.
Fait envie,
bon, hein. En revanche, c'est un film merveilleux qui vous attend en exclusivité sur Netflix. Si vous avez été bouleversé par Kramer contre Kramer, le film sorti en 1979 avec Dustin Hoffman et Meryl Streep, vous pourriez succomber à la même émotion avec Marriage Story, signé Noah Baumbach.
Je voulais le regarder, c'est super ça ?
Extraordinaire.
Trop bien.
Avec un duo exceptionnel, Adam Driver et Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, il est metteur en scène, elle c'est son actrice, son égérie, sa femme. Leur vie tourne autour des pièces de théâtre qu'ils montent à Broadway en l'occurrence et à New York, et de leur fils Henry. Et puis la vie du couple va se dégrader, séparation, divorce. Elle va partir à Los Angeles avec son fils parce qu'elle a une promesse d'embauche sur une nouvelle série hollywoodienne, pendant que lui reste à New York. La séparation à l'amiable va tourner au cauchemar. cauchemar avec l'intervention des deux avocats dans chaque partie. Et en un film, le réalisateur évoque à la fois la scène théâtrale américaine, la judiciarisation des relations humaines et puis surtout une histoire de couple ordinaire. Un condensé d'émotions qui est porté par les deux acteurs. Scarlett Johansson, si appréciée par Woody Allen, franchement, elle a trouvé en la personne de Noah Baumbach un nouveau Pygmalion. Certaines scènes, certaines séquences, dont celle d'une dispute, sont des morceaux de cinéma. C'est absolument intense, c'est bouleversant. Franchement, après The Irishman de... Pardon.
Ah non, moi j'adore quand tu dis Irishman.
Non, j'arrive
c'est
pas.
C'est un
lire.
Autre pays. C'est-à-dire que c'est pas l'Irlande.
C'est pas l'Irlande.
C'est les Irish. C'est autre chose. C'est les Irish. C'est Irish. Irish. C'est autre chose. Voilà. Hein,
après The Irishman de Scorsese. Irishman. Allez, on va y arriver.
Là, Irishman. Ouais.
Mais oui, je sais. Après The Irishman de Scorsese, dont nous avons parlé la semaine dernière, et bien Netflix produit une nouvelle fois une œuvre cinématographique.
Excuse-moi, je crains d'avoir été inattentif à un moment. C'est un film ou c'est une série?
C'est un film.
C'est un film.
Ouais, ouais. 2h10, hein, si je me trompe pas pour le timing.
Karine Lissouli, voilà. Vous êtes un...
Je vais le regarder.
Est-ce que vous êtes un gros télévore? Vous êtes à la télé, mais vous la regardez beaucoup?
Je regarde très très peu la télé, mais je regarde des films et des séries. Mais je regarde très très peu d'émissions à la télé.
Est-ce qu'il y a des formats? Vous avez créé une émission politique qui est vraiment... ça s'appelle C'est politique sur France 5 et c'est très différent des autres émissions politiques. Est-ce que vous avez des idées de format ou des choses que vous avez vues à l'étranger? Vous dites ça, c'est génial comme concept, j'aimerais le faire.
Non, je suis pas très bon en format étranger, mais je bosse avec des producteurs qui sont excellents.
On embrasse Renaud Levent qui...
Voilà, je leur fais confiance.
Merci Evaroc, c'était 17 minutes de gagner.
Europe 1.
À suivre, ce qui est important dans une compétition, c'est de savoir garder la tête froide lorsqu'on enchaîne les victoires. Jérôme Lacroix le sait parfaitement, c'est pourquoi malgré ses derniers succès pourtant insolents dans notre émission, il reste concentré sur l'objectif final et surtout il demeure le GG accessible, ouvert et sans chichi qu'on a toujours connu. Ah, deux, trois exigences près.
Deux adjoints, oui. Trois kinés, un oui. Médecin, un préparateur physique, un préparateur mental, oui. Un logisticien, des vidéastes,
oui.
Une attachée de presse.
Jérôme Lacroix arrive avec un sujet qui va passionner tous les fans de running et vous êtes nombreux. Les baskets à ressort qui permettent aux athlètes de battre des records arrivent en magasin.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. À 16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Il y a deux manières d'aborder un jour de grève générale des transports. La mauvaise, qui consiste à essayer de bosser quand même de chez soi pour avoir bonne conscience. Et la bonne, qui consiste à écouter l'équipée sauvage. Tranquillement levé dans vos canapés, poltrons et sofas avec un paquet de Pringles paprika à main gauche et un seau de Knacky Balls à main droite. Et si jamais le téléphone sonne et que c'est vos patrons, se dire comme Eva...
Ah oh, on les emmerde.
Oui, enfin personnellement, je ne parlerai pas comme ça à Arnaud Lagardère, mais enfin bon. Se décontracter,
c'est pas vrai,
là,
je parle pas comme ça.
On est d'accord.
Non, mais dites-le.
En compagnie ce soir de ce journaliste passé par Europe 1 et qui réinvente aujourd'hui l'émission politique sur France 5 chaque dimanche, Karim Rissouli, comme le succès professionnel ne vous suffit pas, vous vous investissez également auprès des jeunes, vous proposez des cours d'éducation aux médias en zone d'éducation prioritaire et vous soutenez aussi l'association Viens voir mon taf qui trouve des stages de 3e à des jeunes sans réseau qui a été fondée par votre compagne qu'on peut citer Mélanie Taravant.
Et Virginie Salmen qui est à Europe 1 encore aujourd'hui.
Exactement. Ne pas avoir de réseau, c'était votre cas quand vous avez démarré?
C'était totalement mon cas, mais j'avais des parents qui quand même avaient des amis qui pouvaient peut-être m'aider à droite ou à gauche à trouver un stage. J'étais pas dans la situation d'un jeune qui habite à Clichy ou à Montfermeil,
qui est totalement
par exemple,
déconnecté de certains
milieux. Puis ça va au-delà du stage, c'est-à-dire que le stage c'est super, mais quand le jeune de Clichy ou de Montfermeil n'est jamais venu à Paris de sa vie et trouve un stage dans un cabinet d'avocat ou à Europe 1 ou ailleurs, et que du coup bah même prendre le métro ou le RER venir à Paris, la rencontre de ces mondes-là et le fait que pour lui de se dire bah c'est possible en fait, je peux moi aussi aller à Paris et puis peut-être qu'un jour je pourrais travailler dans cet univers-là, je pense que c'est fondamental. J'ai vu Les Misérables récemment de l'Ajli,
oui.
Et à la sortie du film, bon, j'ai pris un coup de poing dans le bide, mais je me suis vraiment dit que Viens voir mon taf était une assoce qui devrait être connue d'utilité publique.
Et parce que l'idée en fait c'est d'ouvrir la porte à des jeunes qui penseraient même pas qu'ils peuvent l'ouvrir en fait, qui connaissent pas la porte.
C'est ce
que disent
souvent Mélanie et Virginie, c'est que l'autocensure est la première des barrières. C'est que il y a l'absence de réseau.
C'est pas pour eux.
Et puis l'autocensure, ouais, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et on leur a souvent dit, et même leurs parents leur disent, c'est pas pour toi.
Oui.
Déjà trouve un job, concentre-toi sur ça.
Et j'ajouterais même parfois leurs profs dans certains lycées de banlieue, par exemple, leur disent non, c'est pas pour toi. Ça, il faut arrêter cette autocensure.
On peut embrasser Farhan qu'on avait eu en stage grâce à l'association,
qui avait été
incroyable et qui avait fait une chronique à l'antenne en direct.
Qui était bien meilleure d'ailleurs que celle de certains de nos journalistes qui sont pourtant en CDI avec Europe 1.
Qui aurait gagné le championnat, je pense.
Exactement. Une pensée pour lui.
La compétition, c'est également le moteur de cette émission, vous le savez, Karim Rissouli. Chaque après-midi, les plus valeureux journalistes de la rédac s'affrontent au service de votre savoir. Et là, ça ne plaisante plus car l'heure est venue d'écouter l'ultime concurrent du jeu. Un compétiteur né puisqu'il est notre expert sport et il n'aime pas du tout le relâchement
l'engagement, voire la désinvolture dont font preuve certains de ses collègues aujourd'hui.
Vous les gars, ce qui compte, c'est juste rigoler et raconter des blagues, hein. Ça glousse comme une volée de pucelles dans le dortoir. Allez, au boulot.
Eh bien, c'est à vous, Jérôme Lacroix. Vous êtes là pour remettre les pendules à l'heure. Avec quel sujet allez-vous l'emporter ce soir ?
Je vous ramène le 12 octobre dernier en Autriche, Grand Barouf à Vienne, parce que le Kenyan Eliud Kipchoge vient de boucler un marathon, dont 42 km 195, en brisant le mur des 2 heures. Il vient de passer sous les 2 heures. Le lendemain, autre ambiance, Chicago, Bridget Kosgei, kenyane, elle aussi, explose de plus d'une minute le record du monde du marathon féminin qui était vieux de plus de 15 ans. Alors en 2019, les records tombent sur les marathons à Londres, à Chicago, et à chaque fois, eh ben, un point commun à tous ces athlètes victorieux, les chaussures. Voici l'histoire de Alpha Fly de Nike, la chaussure qui faisait courir trop
vite. Alors là, vous nous suivez en vidéo sur europe1.fr et on voit cette belle chaussure. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette chaussure ? Elle ressemble à une chaussure de running plutôt classique finalement.
C'est un produit de très haute technologie. Écoutez, tout cela, ça donne le vertige. Le tissage, donc la partie tissu de la chaussure, fabriquée en matière respirante, elle absorbe toute l'humidité. Du coup, la chaussure n'est pas alourdie par l'humidité du premier au dernier kilomètre et c'est confort maximum. Il y a un fin coussinet de mousse au niveau du talon, confort total du tendon d'Achille. Le détail jusqu'au lassage légèrement décentré qui allège la pression sur le cou du pied, une partie qui devient bien sensible avec les kilomètres. Et puis il y a ces 3 lames de carbone dessous tout le long de la semelle et ces 4 capsules de mousse amortissante qui ont pour conséquence un effet trampoline. Les experts
vous
racontent.
C'est ça que j'attendais pour me mettre à la course à pied. L'effet trampoline.
Les experts, ils vous racontent. Quand on porte ces chaussures, on bascule naturellement vers l'avant. En plus des chocs beaucoup mieux amortis, il y a comme un renvoi élastique. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si le perchiste Renaud Lavillény, il rajoutait un ressort au bout de sa perche.
Alors concrètement, Jérôme, quelles sont les conséquences sur ces chaussures pour les courses ?
Alors si, pas du tout comme moi, mais comme 5 millions de Français, vous êtes un runner éclairé, c'est-à-dire que vous pratiquez au moins une fois par semaine. Sachez que si par exemple vous courez le marathon en à peu près 4 heures, ça peut vous faire gagner 5 minutes.
Oh,
alors bien sûr.
5 kilomètres de gagner.
Eva qui, rappelons-le, a battu Marie-Josée Pérec un jour dans sa vie sur une course. Là, ça, c'est quand même...
Ah, mais moi je rêve de ces baskets.
Vrai ou faux ?
Vous qui détectez les fake news, Karim Rissouli, peut-être vous devrez enquêter là-dessus, peut-être qu'un vrai journaliste devrait se pencher sur cette légende. Alors, en tout cas, Eva, ça vous intéresse, cette chaussure.
C'est pour mon prochain cadeau de Noël.
On va se cotiser.
Non, mais ça pose pas de questions.
Ça pose des questions.
Alors, bien sûr, ça doit être corrélé avec un entraînement rigoureux, tout ça. Je vous le disais, pour un amateur, 5 minutes de gagner sur un marathon de 4 heures. Et pour les pros, le gain de temps estimé, c'est 1 minute à 1 minute 30 environ sur les 42 km 195 du marathon. Alors je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus que ça pour battre les records à nouveau, la technologie, parce que l'être humain n'est sans doute pas très loin de ses limites. Mais avec un tel matériel, la limite qu'on a presque franchie, c'est celle du dopage technologique. C'est l'amélioration des performances par une aide extérieure, ici celle de la technologie.
Mais alors les autorités doivent l'interdire. C'était votre lance. Il y avait écrit avec conviction. Alors vous tapez sur la table pour ajouter de la conviction.
Sauf que il y a comme un flou juridique, un vide là-dessus. Alors voici ce que dit le règlement de la Fédération internationale d'athlétisme sur les chaussures autorisées en course. Elles doivent être destinées à donner aux pieds protection, stabilité et bonne adhérence. Les fabricants, ils ont le champ libre. Mais la loi dit aussi, elles ne doivent pas donner un avantage quelconque, inéquitable. Les chaussures doivent être raisonnablement accessibles à tous. Et c'est là que ça peut jouer, parce que là, c'est pas le cas. Comptez 250 à 350 euros la paire pour les prix moyens. Ça peut ensuite aller beaucoup plus jusqu'à 700 euros quand c'est fait vraiment pour les très très professionnels du sur-mesure. Alors il y a pas mal de voix, bien sûr, dans l'athlétisme qui s'élèvent contre ces chaussures. La Fédération internationale a d'ailleurs monté un groupe de travail, sauf que ça fait 2 ans qu'ils travaillent pour tenter de légiférer et pour l'instant, rien de concret. Alors on parle de sport, de technologie, ça fait longtemps que ces deux domaines avancent main dans la main. On est à l'ère quasiment des hommes et des femmes bioniques. Il y a eu ces chaussures de basket il y a quelques années qui augmenter la détente verticale.
Ouais. C'est pratique. Avec des ressorts aussi.
Interdite en NBA. Les combinaisons de natation en polyuréthane, on en avait largement parlé, pour favoriser l'aérodynamisme, interdite aussi. Sinon, on peut contourner un petit peu les règles et faire comme, par exemple, le golfeur Tiger Woods, mais aussi d'autres golfeurs d'autres sportifs qui se sont offerts des yeux laser. C'est-à-dire des opérations des yeux au laser sur des yeux qui vont relativement bien pour s'assurer d'avoir 10 sur 10 à chaque œil.
Ah oui, ça va très très loin. Je ne connaissais pas cette histoire sur Tiger Woods. Eh bien, c'est une question éthique que nous ne trancherons pas aujourd'hui.
aujourd'hui, Eva Rock.
Mais en revanche, vous êtes d'accord, vous achetez les baskets.
Et je vais lancer une cagnotte litchi. Karim Rissouli.
Non, j'ai appris plein de choses. Mais non, j'allais parler des combinaisons de natation, mais ils ont fini par les interdire, les combinaisons.
Donc ça devrait prendre le même chemin, probablement, ces chaussures.
Parce qu'il faut les textes pour verrouiller tout ça, quoi. Pour l'instant, c'est
Et il faut le temps de les rédiger.
Et là, ça fait 2 ans.
Et là, on a affaire à des sportifs. Merci, en tout cas, Jérôme Lacroix, votre chronique rencontrera-t-elle le même succès que la dernière fois ? Réponse juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, si comme moi, vous n'êtes pas hyper doué en cuisine et que jusqu'à récemment, vous pensiez que l'inventeur de la gastronomie française, c'était lui.
Hello, my name is Dodu, père Dodu. I have invented a really fantastic food. The escalope cordon bleu. It is my chef-d'œuvre. My name is Perdonu.
Voilà, alors comme moi, vous partez d'assez loin. Initiez-vous aux bases de la cuisine simple et rapide grâce à Olivier Poul. Chaque soir, il vous offre une recette express qui sera un jeu d'enfant à préparer, même en arrivant chez vous à 23h après 3h30 de bouchon. A tout de suite avec Delice in Extremis.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous êtes toujours bloqué dans les embouteillages. Votre GPS indique arrivée maison 22h08. Comme Eva, vous klaxonnez violemment en hurlant.
Voilà, le bouchon de merde, putain.
Il y a des jours comme ça.
À quel moment j'ai dit ça ?
Heureusement, je ne sais pas quand vous l'avez dit. Et je crois que malheureusement, ça ne concernait pas, des bouchons routiers. Alors après, si vous voulez qu'on rentre dans le détail de vos problèmes gastriques, je ne sais pas. Mais en tout cas, bref.
C'est pas
heureusement,
vrai.
Vous passez le temps intelligemment en nous écoutant, chers auditeurs. L'équipe est sauvage, 16h-18h. Votre cocktail info et bonne humeur en compagnie d'un invité que j'apprécie beaucoup aujourd'hui, d'un point de vue humain, bien sûr, mais surtout patronymique. Il faut avouer que Karim Rissouli, c'est quand même beaucoup plus simple que Tété. C'était Tété en live, à ses côtés Tété, des gens très bien Tété.
Je joue la carte de la simplicité Tété.
J'adore Tété, moi si j'ai un truc que j'aime c'est Tété.
Un chanteur dans le vent et qui ne se donne pas un air Tété. C'était un peu compliqué hier, il fallait faire attention à chaque mot. Karim Rissouli, on vous retrouve chaque dimanche à 18h35 sur France 5 pour C'est Politique, l'émission politique, sans hommes politiques. Vous recevez donc des gens d'horizons très différents. Est-ce qu'il y a un invité en particulier que vous rêveriez d'entendre, que vous rêveriez d'avoir dans votre émission et que ça ne s'est pas encore fait ?
Je pense que quasiment tous les intellectuels de ce pays, on les a eus.
Et alors d'autres pays, Ken Loach.
Ken Loach, oui, mais on ne fait pas de traduction, c'est une émission qui est en direct.
Oui, vous pourriez faire un grand entretien avec Ken Loach, ça vous ferait...
Ken Loach, pourquoi pas. Non, mais j'adorerais avoir... On fait des politiques étrangers parfois. J'adorerais avoir Trump, Obama, ce genre. Oui, bien sûr, voyons grand.
Ah, mais vous avez tout à fait raison de viser haut. J'ai très envie de rencontrer aussi, vous disiez, Alexandra Ocasio-Cortez, que Keva avait rebaptisé Ocasio-Cortex.
Non, c'était pas Cortex.
C'était Mimi et Cortex, vous vous êtes trompé. Ah, oui, c'était ça. Non, c'est le genre de personne que vous aimeriez...
Oui, bien sûr. Ocasio-Cortez ou d'autres. Je ne sais plus quoi dire là. Olivier, aidez-moi.
Olivier Pouche ne peut pas vous aider, il ne connaît que la bouffe. Vous avez réalisé également des documentaires donc, qui s'appellent La Revanche des Bleus sur le parcours de l'équipe de France.
Oui, c'est une collection qui s'appelle C'était écrit, qui est sur France 5. On prend un événement, on raconte en quoi il était écrit. Par exemple, cette émission va cartonner en fin d'année. Et
ça,
on
c'était
dira
écrit.
Pourquoi c'était écrit. Voilà.
Et non, vous aurez été là pour le filmer.
Voilà. Non, mais donc on a raconté la victoire des Bleus en 2018, on raconte en quoi, depuis 2010, il y a eu telle étape qui font qu'on en vient à la victoire. Et puis il y a eu le dernier sur Nicolas Hulot, c'était écrit la démission de Nicolas Hulot, qui raconte son affrontement face à différents types de lobbies pendant ses 15 mois au ministère. Et voilà.
Alors, mon cher Karim, pour nos auditeurs, savoir ce qui a poussé Nicolas Hulot à dire oui à Macron est important, mais pas autant que de savoir ce qu'ils vont bouffer ce soir. L'individu potelé qui nous a rejoint s'appelle Olivier Pouls. Chaque jour, vers 6h moins le quart, il nous propose dans Delice in Extremis une recette facile de dernière minute. Le problème, c'est que son don pour la cuisine est inversement proportionnel à son don pour la géographie, d'où dernièrement quelques ratés. Quand il tente de préparer un plat hommage à la région ou au pays natal de notre invité, comme avec le comte de Bouderbala l'autre jour qui était originaire d'Algérie.
Alors je vous emmène sur les traces de vos origines et je vous propose de parler de tagine.
Bah, c'est pas vraiment mes origines, mais c'est marocain la tagine.
C'est un plat du Maghreb en général.
C'est de chez vous ça.
Alors attention, on s'est dit Pouls. Karim Rissouli n'est né ni à Oran, ni à Essaouira, mais à Angers. Pas de gaffe.
Beaucoup plus facile pour moi.
Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ?
Eh bien, figurez-vous que je vais vous proposer, et ça fait un petit peu écho à la chronique tout à l'heure que nous avons entendue sur les fantasmes masculins.
C'est... J'ai très j'ai encore plus peur qu'avant, là, ça ne me rassure pas.
Eh bien, nous allons parler des galipettes d'Anjou.
Les galipettes d'Anjou. Alors, qu'est-ce que c'est que les galipettes d'Anjou ?
Ah, rien à voir avec la brouette togolaise, le marteau piqueur suédois, je vous rassure.
Que vous trouvez en vidéo sur europe.fr.
Vous
servez
de cette émission ou pas? Oui, oui, non, mais vous allez tous vous arrêter, vous calmer, non mais sérieusement.
Les galipettes d'Anjou, ce sont des champignons. Alors vous savez que la région de l'Anjou est aujourd'hui la principale productrice de ce qu'on appelle les champignons de Paris communément, qui sont évidemment plus produits à Paris.
Les champignons de Paris, ils ne viennent pas de Paris ?
Mais plus maintenant. Ils ont longtemps été produits à Paris, mais depuis la construction du métro, on a arrêté de produire les champignons dans les sous-sols parisiens.
Oui, peut-être tant mieux d'ailleurs, si on est en régie.
Et donc c'est dans cette région qu'on en produit énormément. Et quand on produisait ces champignons, on continuait d'ailleurs à le faire, historiquement on les faisait sur des petites buttes de terre. Et lorsqu'on les laissait pousser et que le chapeau devenait gros, il devenait trop lourd pour le pied, il basculait, il roulait et il faisait une galipette.
J'adore quand vous transformez en Alain Decaux.
Voilà, alors ces galipettes d'Anjou, vous allez les farcir. Et c'est extrêmement simple et surtout c'est délicieux. Donc vous récupérez quelques beaux gros spécimens de galipettes d'Anjou.
Mais c'est gros, alors si on peut les farcir.
Oui, c'est plutôt des champignons de Paris avec une, au moins une dizaine de centimètres de circonférence pour le chapeau en tout cas. Donc vous enlevez le pied. Vous allez émincer le pied tout finement après l'avoir nettoyé, brossé, enlevé la petite partie carreuse.
Oui, c'est délicieux extrémiste, mais quand on a 2 heures devant soi.
Non, il y en a pour 2 secondes. Franchement, vous l'émincez tout simplement et vous mélangez ces petits morceaux de pied avec des rillettes. Alors des rillettes, on est là aussi local, prenez des rillettes du Mans par exemple, un petit peu d'ail, un peu de persil, vous farcissez le chapeau et vous mettez le chapeau dans le four, 180 degrés, pendant 15 minutes. Ça c'est très simple. Deuxième version, plutôt que de mettre des rillettes, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus léger, on va dire, vous prenez un fromage frais, ail et fines herbes, vous mélangez pareil les petits morceaux de pied, vous farcissez et vous mettez au four. Et vous avez, voilà, des galipettes d'Anjou farcies.
Une galipette avec Olivier Poul, ça vous tente pour ce soir? Merci Olivier, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Étouffant et le suspense. Qui sera élu chroniqueur du jour? Qui se coiffera dans quelques instants de cette rutilante couronne, la foire fouille? Qui remerciera les votants avec une emphase jupitérienne?
Je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité, je vous servirai avec amour. Vive la République, vive la France!
Et qui au contraire repartira la queue entre les jambes?
Au revoir.
A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Contrairement à votre GPS qui désormais indique arrivée maison 23h09, l'équipée sauvage est, elle, quasiment arrivée à destination. 4 journalistes se sont succédés au micro au service de votre culture G. 4 styles différents, comme le dit perfidement Ève Roger.
Il y a les besogneux et les talentueux.
Un seul brandira dans quelques instants la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour sous l'œil de notre grand arbitre, Karim Rissouli, présentateur émérite de C'est Politique chaque dimanche sur France 5. Il reste aux concurrents une dernière chance, le quitte ou double. 10 secondes pour plaider leur cause auprès de notre invité. Ça s'appelle quitte ou double depuis la fois où Ève Roger s'était vautrée, annihilant toutes ses chances face à Mathieu Madénian. Roger, pourquoi il doit voter pour vous?
Parce qu'il peut trouver l'amour à 50 ans.
Mais il n'a pas 50 ans, vous n'avez pas le droit. Il a 43 ans.
Tu es éliminé.
Attention, Eve, essayez de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis à la dernière seconde. Pourquoi Karim Rissouli devrait-il voter pour vous?
Parce que je crois qu'il peut me remercier de ne pas avoir dévoilé ses pensées secrètes.
Parce que vous les connaissez?
Parce que je les connais.
Oh mon Dieu.
Le coup de pression.
Alors, c'est terrible. Là. Jérôme Lacroix, pourquoi voter pour vous?
Promis, Karim Rissouli, si vous me choisissez mon sujet, si vous choisissez mon sujet sur les chaussures Nike qui font courir plus vite, la caisse noire de l'équipe est sauvage servira à vous offrir une paire. 700 balles.
700 balles? Ah, vous avez tout ça avec les sous d'Europe 1. Jean-Philippe Ballas.
Excusez-moi, vous avez des lingettes.
Pourquoi voter pour vous aujourd'hui et votre groupe de Beatles au féminin?
Parce que le rock'n'roll n'est pas mort.
T'aurais dû être acteur.
Je pense que j'étais tellement au bout de ma vie.
Dans tout le soleil, t'aurais été magnifique. Mathieu Charrier, pourquoi voter pour vous?
Parce qu'il peut me remercier de ne pas révéler ses vrais secrets.
Oui.
Il faut avouer à nos auditeurs que ces deux-là se connaissent un peu dans la vie. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Ça a été très serré entre Jean-Philippe Ballas et Ève Roger. Et c'est Jean-Philippe qui gagne les 2 points des auditeurs.
Jean-Philippe, mais quelle remontada! Quand on pense qu'au début de l'année, vous étiez dans les bas-fonds du classement, Jean-Philippe. On peut le dire. Pour ma part, j'attribue mon point aujourd'hui. Non, ça ne sera pas le grand chelem pour Jean-Philippe. Je vais l'attribuer à Jérôme Lacroix, car je vais me faire offrir ces chaussures qui font courir vite. Je vais m'obliger, quitte à mobiliser tous mes proches.
Mais ça sert à rien, vous courez pas.
Et bien justement, je compte m'y mettre.
Mais vous savez ici, tu fais de la randonnée maintenant.
Ne révélez pas tout. Vous savez ici, la voix de notre invité d'honneur compte vite. Karine Rissouli, c'est à vous qu'il revient de désigner le grand vainqueur qui mérite d'être élu chroniqueur du jour.
J'adore cette musique. J'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Mathieu Charrier dans la vraie vie, mais aujourd'hui, je suis désolé Mathieu, ce ne sera pas vous. J'hésitais beaucoup entre les trois.
Il a même pas hésité avec toi.
C'est son éthique qui pousse à...
J'aurais pu donner mes points à Jean-Philippe Ballas parce que je lui dois tout.
C'est vrai, vous avez dit que vous lui devez une partie de votre carrière.
Non mais vraiment, je lui ai jamais dit, mais...
Oh, c'est bon.
Mais c'est vrai.
Je voudrais juste préciser qu'il n'y avait pas de mal parce que très tôt, on repérait que c'était un très bon.
Oh, voilà. Oh là, vous avez mis un petit coup de lèche les derniers, là. Dernière minute, ça peut valoir les points, hein, là.
J'aurais pu donner mes points à Jérôme Lacroix parce que j'ai appris beaucoup de choses avec cette chronique, mais...
Oh non, mais dis pas que c'est encore Roger qui l'a gagné. Roger. Pour quelle raison?
Parce qu'elle a fait une enquête maison.
C'est vrai, elle
c'est
est
une enquête maison.
Elle, elle a passé des coups de fil.
Elle a passé des coups de fil, elle a envoyé des gens en soirée pour poser des questions aux autres. C'était assez dur à faire.
Si vous saviez comment elle a fait l'enquête maison.
Non, on ne veut pas
j'ai
connaître.
Envoyé des gens en soirée. Non, bah, c'est vrai.
Une journaliste ne révèle jamais ses sources. Mathieu Charry, Karine Rissouli, c'est donc Ève Roger qui remporte l'équipée sauvage.
Merci, merci.
C'était la 76e édition de l'équipée sauvage, les amis. On remercie notre invité Karine Rissouli que vous retrouverez chaque dimanche aux commandes de C'est Politique à 18h35 sur France 5. Merci également à tous mes journalistes, Eva Rock, Ève Roger, Jean-Philippe Ballas, Mathieu Charrier, Jérôme Lacroix et Olivier Pouls. L'équipée sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à vous tous. Rendez-vous demain avec votre équipée sauvage dès 16h, évidemment. Salut Mathieu.